Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles ?
Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoires. Eh bien, bonjour. Nous allons donc retrouver Victor, dit Pêche-Melba en Sioux. Coule au fond, petite pêche à la peau douce, ses papouses, et ils sont sur le navire qui les ramène en France en passant par Cuba quand vous vous en souvenez. Plus de vent. Ah oui, plus de vent, et puis coule au fond, fait sa petite cérémonie Sioux, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme vous vous en doutez, le vent souffla. Et comment décrire l'euphorie régnant sur le navire quand Éole se manifesta de nouveau ? Coulofon passa du statut d'indien puant à celui de héros national. On le porta en triomphe, on lui fit faire plusieurs fois le tour du navire dans cette posture. Puis, hop, on le jeta à l'eau. Ah ouais, les mœurs du marin ont ceci de particulier que quand le marin vous veut du mal, il vous fiche à l'eau. Et que quand le marin veut vous honorer, il fait pareil. Hein, allez-y, comprendre quelque chose. Enfin, moi, je suis pas marin, mais... toujours est-il que Victor vit avec angoisse la plume de coule au fond flotter un moment à la surface des flots et, comme lors de leur rencontre, s'enfoncer brutalement comme le bouchon du pêcheur quand la ligne est haptée par une carpe gourmande. Ça fait deux fois que j'utilise la formule « est tapé par une carpe gourmande ». La prochaine fois, il va falloir que je change de marque de poisson. Contrairement à la fois précédente, il plongea tout de suite au secours de son frère de sang, et il fit bien, car le navire se trouvait juste au-dessus d'une fosse marine de plus de 2000 mètres de fond, et il ne se sentait pas assez en forme pour repêcher coule au fond à cette profondeur. Du pont, on leur lança un filin, hein, c'est une sorte de corde, mais corde en marin, ça porte malheur, alors c'est un filin, pour les aider à regagner le bord. Et puis de nouveau, on fit la fête. Alors je vous passe la gueule de bois du lendemain matin, les courbatures et la terreur de fait du vent. Ah oui, fait du vent, c'est le nouveau nom donc de coule au fond, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, les Indiens changent de nom au fur et à mesure que ceci, cela, enfin bref. Fait du vent, qu'est-ce que je disais moi ? Ah oui, fait du vent, c'est parce que j'ai été obligé de vous préciser que c'était le nouveau nom de coule au fond. Parce que si vous voulez comprendre quelque chose à cette histoire, il faut suivre le changement de nom de coule au fond, enfin de fait du vent. Hein ? Voilà. Donc il était terrorisé, fait du vent, à l'idée de se retrouver à nouveau à l'eau, au moindre prétexte. Mais dorénavant, les Sioux pouvaient se balader librement sur le pont, ce qui est quand même un avantage non négligeable plutôt que d'être enfermés dans la cabine. Et enfin, on arriva en vue de la Havane, qui était sous domination espagnole à cette époque. Ils furent accueillis chaleureusement, à la grande joie des marins qui avaient épuisé leurs réserves de rhum. Et Victor se mit aussitôt à la recherche de la servante espagnole Isabella Tabalavande. Les premiers passants qu'il interrogea ignoraient complètement qui elle était. Donc Victor commençait à désespérer de la trouver, quand il apprit qu'elle était connue sous le nom de Seta. Ah oui, servante, ah ouais. Et il la trouva alors très facilement et put entamer la conversation suivante. Alors, on m'a dit que vous vendiez du tabac. Oui, c'est à vendre. Ah bah si c'est à vendre, j'achète combien ? Ah ben, je sais pas combien tu achètes, c'est un problème. Oui, parce que Seta parle très très mal le français. Et en particulier, elle a tendance à confondre le genre des articles. Et c'est... Ah bon, répondit Victor, et c'est quoi ton problème ? Ah ben, Seta, pas problème, c'est un problème à toi. Non, mais mon problème, c'est d'acheter. Si c'est à vendre, moi, pas problème. Et alors là, vous remarquerez que, très naturellement, Victor se met à adopter un langage petit nègre, dirons-nous. Hein? C'est ce que nous faisons tous, d'ailleurs, quand on se retrouve face à un individu qui parle très très mal notre propre langue. Bon, alors, si vous voulez bien, on va quand même passer sur le reste de la conversation, hein, qui ne présente vraiment aucun intérêt, hors les intérêts que Plat allait trouver tirés de la transaction. Il vous suffit de savoir que l'affaire Sophie et que nos amis purent enfin repartir de la Havane, devoir accompli et les cales pleines. Ah, et les pirates, me direz-vous, hein ? Je vous entends déjà, hein ? Eh ben, je vous répondrai que les pirates, ils les rencontrèrent alors qu'ils arrivaient au terme de leur voyage, au large d'un irréductible petit village des Côtes-Bretonnes. Des pirates pas bien redoutables, qui très curieusement s'abordèrent leur navire quand Fait du Vent fit apparition en poussant son cri de guerre. « Obélix !» Ce qui lui valut un nouveau bain de mer quand l'équipage fêta son nouvel exploit. Et enfin, ils arrivèrent au point de rendez-vous que Plat leur avait assigné. Le capitaine fit mouiller l'ancre dans une crique à l'abri des regards. Ils avaient rendez-vous en ce lieu avec une bande de faux sauniers, avec lequel Plat était en affaire. Ces spécialistes de la fraude douanière devaient effectuer le transport des balles de tabac que Victor avait achetées à la CETA, moyennant 10% des marchandises. Le déchargement des cales prit quelques jours, durant lesquels nos amis purent se reposer en se gavant de belettes bretonnes, de galettes bretonnes et de chouchènes. Hein? Tiens, je me demande comment ça s'écrit, ça, chouchène. Chouchène ou chouchène? Bref. Fait du Vent et Victor étaient terriblement heureux de se retrouver à terre. Le premier parce qu'il en avait marre de se retrouver à l'eau au moins de prétexte, et le second parce qu'il pouvait enfin remplir son estomac sans avoir à le revider aussi sec et qu'il ne devrait plus plonger toutes les 5 minutes pour repêcher le premier. Et Victor, tout en grignotant ses galettes, se demandait comment se passeraient les retrouvailles avec son père. C'était donc la fin du 12e épisode et effectivement, comment s'écrit Chouchène ? Ça s'écrit C-H-O-U-C-H-A-I-N-E, ça s'écrit C-H-O-U-C-H-E-E, accent circonflexe, N-E, c'est... Oh, quelle boisson à la con, hein, c'est... Oh, ils peuvent pas boire de la bière comme tout le monde. C'est... Et alors, comment va se passer le voyage terrestre ? Hein ? Et quelle est la recette exacte de la galette bretonne, hein ? Ah, ben c'est à ces interrogations et à bien d'autres sans doute que vous devrez faire face en écoutant le prochain épisode de notre grand feuilleton. La prochaine fois, descendez avant les ancêtres. What? Le convoi cheminait à la vitesse des bœufs. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne vous ferai pas part de l'ensemble du voyage, parce que ce serait un petit peu long et voilà. Et vous auriez quasiment l'impression qu'il ne se passe rien, quoi. C'est... Je sais bien qu'il ne se passe pas grand-chose pendant ce voyage, hein, mais c'est quand même pas ma faute, à moi. Vous voudriez quand même pas que j'imagine des trucs, là, qui n'ont pas lieu d'être, hein. Faut être sérieux, quand même. C'est... Bon, eh ben, nos amis passaient le temps comme ils pouvaient, hein. Les enfants couraient de part et d'autre des chariots, faisant la course avec les bœufs. Fait fuir les pirates. Ah oui, c'est le nouveau nom de Fait du vin. Et Petite Pêche à la peau douce découvre avec étonnement les paysages d'un pays civilisé. Pour l'instant, le convoi est toujours sur la lande bretonne, qui finalement ne diffère guère de certains paysages américains, sauf que de temps en temps, on rencontre un village. Mais ils n'ont pas le loisir d'en découvrir plus, hein. Car étant donné la nature du contenu des chariots, les contrebandiers évitent le plus possible toute agglomération. Hein. Enfin, toujours dans le but de passer le plus inaperçu possible, les faux sauniers ont exigé que les Sioux revêtent des vêtements, disons, plus familiers aux contrées traversées que ceux qu'ils portaient habituellement. Et elle a fière allure, Petite Pêche à la peau douce, avec sa coiffe de bigoudaine. Hein? Et quant à Fait fuir les pirates, s'il n'avait pas mis sa plume à son chapeau, rien n'indiquerait qu'il n'est pas un Breton un peu plus bronzé que la moyenne et qui porterait pas de sabots. Victor, en discutant avec le chef du convoi, apprend qu'ils vont se rendre ainsi jusque dans les faubourgs de la capitale, où un chef de bande les attend pour prendre livraison de la marchandise. Et ensuite, les affaires étant réglées, Victor et ses amis pourront rejoindre Plat. Victor ne comprend vraiment pas bien le pourquoi de ce détour. N'était-il pas possible de vendre la cargaison autre part qu'à deux lieues de Paris ? « Ah bon, votre père ne vous l'a pas dit ?» interroge le chef des contrebandiers. « Ah bah non, il m'a juste dit de vous faire confiance. »« Ah, oh, c'est gentil de sa part. Mais c'est difficile, vous savez, de vendre le tabac en grosse quantité. L'homme qui va l'acheter s'est fait une spécialité. Il est fait débiter, hacher les feuilles de l'herbe anico et il est fait rouler en petits cylindres qui réunit en paquets de vin et il vend ensuite ses cigarettes, comme on les appelle, par 10 paquets de vin, voilà. D'où son nom. Ah bon, ça a un rapport avec son nom, demande Victor. Ah ben oui, c'est un rapport avec son nom, on le nomme Cartouche. Alors là, je peux pas résister à m'auto-féliciter d'avoir enfin fait la lumière sur une des grandes énigmes de l'histoire de France. Personne jusqu'ici, à ma connaissance, n'avait émis la moindre hypothèse valable sur les origines du surnom de Louis-Dominique. Eh ben voilà, c'est chose faite. J'ose espérer que la communauté scientifico-historico-affabulatoire m'en sera éternellement reconnaissante. Mais là, je vous vois arriver avec vos gros sabots. Ah, vous allez me dire que Louis-Dominique, surnommé Cartouche, a sévi dans la banlieue de Paris bien avant que Victor et ses amis n'effectuent le périple que je suis en train de vous raconter, puisque le dit Cartouche fut roué en 1721, et que nos amis arrivent en France vers la fin de 1770. Hein? Alors, je vous répondrai premièrement que l'histoire est loin d'être une science exacte. Et que deuxièmement, il n'y a pas qu'un âne qui se nomme Martin. Hein? Et ou pour être plus clair, que le cartouche de mon histoire n'a rien, mais alors rien à voir avec le cartouche du dictionnaire, en dehors du fait que lui aussi était un tantinet hors la loi, hein, hein. Il y a cartouche aujourd'hui comme il y avait cartouche hier. Maintenant, hein, si vous voulez bien me laisser continuer sans plus m'interrompre, on pourra arriver à la ville-étape avant que les restaurants soient fermés. Enfin, oh. C'est en tout cas dans cette ville que fait fuir les pirates, découvrit les rillettes et l'analogie entre le cochon et le bison. Alors là, je sens votre incrédulité. Et pourtant, ah ouais. Ah bah certes, à première vue, il n'y a aucun rapport entre ces deux animaux. L'un est sauvage, l'autre est domestique. L'un vit en troupeau de plusieurs milliers de têtes, l'autre est relativement solitaire, enfin du moins quand il est à l'état sauvage, et il est célèbre pour la sienne. Je ne sais pas ce que j'ai dit là, il est célèbre pour la sienne. Ah oui, sa tête, un millier de têtes, il est célèbre pour la sienne, la tête d'un cochon. Je fais des jeux de mots sans m'en rendre compte, c'est sûr. Le bison est un cousin du bœuf et le cochon sommeille dans chaque homme. Hein. Mais du bison comme du cochon, tout est utilisé. L'Amérindien tire du bison son habitat, ses vêtements, ses armes, ses ustensiles de cuisine, sa nourriture. Et le cochon fournit son cuir, sa viande, sert de brosse à reluire et de colle pour les affiches des partis politiques. Quoique... certains partis utilisent une colle à base d'os de lapin. Mais ça, les opinions politiques, ça ne se discute pas. En bref, le bison comme le cochon sont des animaux à tout faire. On peut dire sans risque de se tromper que la civilisation amérindienne est bâtie sur le bison et que la civilisation européenne, et principalement française, est bâtie sur le cochon. Évidemment, ceci n'explique rien et ne fait absolument pas avancer l'action. Mais l'action est une chose et la culture en est une autre. Et il est bon de temps à autre de cultiver l'auditeur et que lui cultive son jardin. À défaut de faire avancer l'action, cet intermède nous fournit un excellent enchaînement puisque Cartouche rit en voyant le nombre de balles de tabac que Victor et ses acolytes lui livraient, et que la cochonne fit de même. Oui, la cochonnerie, voilà. Faut tout vous expliquer. Et bien sûr, c'est à Vincennes qu'eut lieu la transaction, là même où la cartoucherie de Vincennes, grâce à Ariane Nouchkine, qui fit un tabac, comme quoi il n'y a pas de hasard. Bon. Après s'être séparés des contrebandiers, ils visitèrent la capitale. Alors je ne vous raconte pas l'étonnement des Sioux devant ce spectacle. Ah certes, ils avaient eu le temps de se familiariser avec un certain nombre de différences entre notre civilisation et la leur, mais le gigantisme de la ville, le nombre de ses habitants, l'amoncellement de marchandises, le bruit, la circulation, l'insécurité qui y régnait, tout leur était objet de frayeur et d'étonnement. Aussi, Victor décida de ne pas trop s'attarder et, renonçant à leur faire voir Versailles, dont il gardait d'ailleurs un très 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 mauvais souvenir, la tour Eiffel et les folies borgères, il se borna à faire quelques achats, des vêtements, des chevaux, des armes... Et ils se mirent en route pour rejoindre Plat, qui les attendait avec impatience. Les Sioux, pendant le voyage, avaient eu le temps d'apprendre suffisamment de français pour se faire comprendre, et si leur allure dénotait quelque peu, ils n'en passaient pas moins relativement inaperçus. Par sécurité, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Victor est toujours hors la loi, hein. Et qu'il quand même transportait une petite fortune récupérée avec la vente des fusils et puis du tabac. Ils ne prirent pas les grandes routes. Ils chevauchaient par les sentiers, couchaient dans de modestes auberges et ne s'attardaient en aucun lieu. Il leur arrivait même de coucher à la Belle Étoile, surtout à la demande des Indiens d'ailleurs. qui avait beaucoup de mal à se faire aux coutumes locales, et notamment à la douceur des matelas, qui pourtant, la plupart du temps, n'étaient que de rudes paillasses. Et on arrive tranquillement à la fin du 13e épisode. Merde ! Alors c'est cette expression bien française qui réveille fait fuir les pirates. La veille au soir, nos amis avaient établi leur campement dans une petite clairière située un peu en retrait du chemin forestier qu'ils suivaient, ou un campement assez rudimentaire, comme le font les Sioux quand ils sont en déplacement. Intrigués, fait fuir les pirates, rejoint Victor qui continue à proférer un chapelet de jurons et d'autres incongruités aussi diverses que variées du genre « Oh putain, borgne, qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour qu'il me fasse chier comme ça? Mais putain de ta mère, y'a qu'à moi que ça arrive, ce genre de saloperie de trucs pas croyables, c'est pas Dieu possible, on m'en veut sur cette putain de saloperie de bordel de merde de terre !» Du coup, fait fuir les pirates, on déduit que quelque chose ne va pas et que Victor n'est pas vraiment de bonne humeur. Et c'est donc assez prudemment qu'il demande y a quelque chose qui va pas ? S'il y a quelque chose qui va pas, mais regarde putain, un con, on nous l'a volé le fric ! Devant l'air hébété de fait fuir les pirates, Victor précise « Mais le pognon, quoi, le blé, l'artiche !» Alors là, si je voulais, je pourrais vous faire une démonstration de ma connaissance de la langue française et de ses dérivés en recopiant l'article concernant le mot « argent » ou « monnaie » du dictionnaire des synonymes. Mais voilà, j'ai pas de dictionnaire de synonymes sous la main, j'ai pas que ça à faire. Et puis faites-le si, vous-même si ça vous amuse, moi j'y vois aucun inconvénient. En tout cas, si fait fuir les pirates fait un geste d'incompréhension, ce n'est pas seulement parce qu'il ne possède pas assez de vocabulaire pour comprendre ce que dit Victor. C'est surtout parce que ces mots n'évoquent rien pour lui. Les mots « argent »,« monnaie », »,« artiche » et puis toute la liste de mots que vous avez trouvés dans votre dictionnaire des synonymes n'existent tout simplement pas en Sioux. Hein ? Mettez-vous à sa place. Il y a quelques mois encore, lui, il ne connaissait que le troc comme moyen de paiement. Depuis le début de leur périple, c'est pas lui qui se préoccupait de ce genre de choses, c'est Victor qui se charge de ça. Et puis c'est bien normal, quoi. L'or, précise Victor, on nous a volé l'or et les chevaux ont disparu. Alors cette fois, fait fuir les pirates, comprend. L'or, l'argent, peu importe comment on l'appelle, ça, il s'en fout. Mais les chevaux, nom de Wakatonka, y aurait-il des ponies dans le coin ? Mais non, il n'y a pas de ponies en France, c'est sans doute des malandrins. Fait fuir les pirates, lui, les malandrins, il ne connaît pas cette tribu, mais ça n'a pas d'importance, hein. Suivons la piste, dit-il. Et sans plus attendre, il se met en devoir de retrouver les indices qui le guideront sur les traces des voleurs de chevaux. Alors, nous avons tous vu un western quelconque, où un éclaireur indien déclare en voyant une branche brisée, ou une trace de fer à cheval, ou une empreinte de botte, ou une crotte de chien, ou une merde de pigeon. Ils sont quatre, le plus jeune a dans les 16 ans, le plus vieux l'âge de la retraite, ils ont mangé des haricots, et le plus grand boite est le petit à la diarrhée. Ah ouais, mais ça, c'est au cinéma. En réalité, les choses sont bien plus étonnantes encore. Alors, qui n'a jamais vu un chien truffier ne sait pas ce que c'est qu'un indien pisteur. Car l'indien piste comme le chien truffe. Quand il prend la piste, le chien truffier tourne d'abord en rond, renifle dans toutes les directions, Puis, semblant se décider, il suit des signes que lui seul peut apercevoir. Il hésite, il lève la patte, il pisse un coup, il repart, il hésite encore une fois, revient sur ses pas, pisse encore un coup, il court de droite à gauche et finit par foncer résolument vers son but afin de gratter de ses pattes avant la terre à l'endroit exact où se trouve l'objet de sa convoitise, la truffe. Alors, un voleur de chevaux, en se déplaçant, en général, va plus vite qu'une truffe. La technique de l'Indien pisteur est donc légèrement différente. Si le chien se sert principalement de son flair, l'Indien, lui, utilise sa vue. Il cherche du regard la moindre trace du passage des chevaux volés et de leurs ravisseurs. Et il y en a des traces. Ah, ben ça, c'est pas ça qui manque, hein. Des herbes piétinées, des branches cassées, des crottins disséminés ça et là. Un vrai jeu de piste. Alors quand il trouve un crottin, fait fuir les pirates, le prend en main afin de déterminer depuis combien de temps date le passage du cheval qui en est responsable. Plus le crottin est chaud, plus le passage de l'animal est récent. Et suivi de Victor, l'Indien court d'un pas souple et régulier qui ferait l'admiration de n'importe quel amateur de cross-country ou de jogging, comme on dit de nos jours. De temps à autre, il s'arrête, regarde à droite, à gauche, ça principalement avant de traverser une route ou un chemin. On ne sait jamais, hein, ce serait bête de se faire renverser par une diligence ou un tout autre véhicule qui passerait par là à ce moment-là. Quand il s'est assuré qu'il peut traverser en tranquillité, il reprend sa course imperturbable, le regard fixé sur les traces qu'il lit aussi facilement que vous la lettre de rappel que vient de vous adresser votre percepteur. Victor, qui a maintenant 40 ans, suit avec une certaine difficulté. Et depuis qu'il a retrouvé la civilisation, il a repris certaines habitudes qui ne favorisent pas ce genre d'exercice. Entre autres, celle de consommer des boissons alcoolisées en quantité relativement peu raisonnable. Et c'est une habitude qui favorise bien plus le mal de tête que la course à pied. Ça, tous les sportifs de haut niveau vous le diront. Ce qui fait que ce matin-là, il ne se sent pas très en forme et qu'il laisserait bien fuir les pirates, courir tout seul. Mais ça se fait pas, même entre frères de sang. N'empêche qu'il est quand même bien content quand il voit l'Indien s'arrêter dubitatif au carrefour qu'ils viennent d'atteindre. En ce lieu, trois chemins se croisent. Ce qui, grosso modo, leur laisse le choix entre cinq directions possibles. Le hic, c'est que ces chemins semblent avoir été très fréquentés ces derniers temps, et que ce n'est pas les traces qui manquent. Hein. Ah, il n'y en aurait même plus qu'il n'en faudrait si on en croit la tête que fait fuir les pirates. Il m'énerve ce nom-là, il va falloir qu'il change bientôt, lui. Et quand Victor le rejoint, celui-ci est à quatre pattes, étudiant un tas de crottins qui ferait le bonheur de n'importe quel jardinier. Et il étudie ça avec le même sérieux que le commissaire Maigret, mais a bourré sa pipe. Passant de crottin en crottin, l'Indien hume, palpe, renifle. Pour un peu, il y goûterait. Il étudie chaque chemin avec attention, chaque trace de sabot, chaque marque de botte, chaque touffe d'herbe écrasée. Et enfin, il s'assoit par terre, découragé par l'ampleur de la tâche. C'est ce qu'il faudrait un véritable laboratoire de police scientifique pour venir à bout de ces centaines d'indices. Et car, il faut bien l'avouer, hein, rien ne ressemble plus à un crottin de cheval qu'un autre crottin de cheval. Et pareil pour les traces de sabots. Hein. Il n'y a que dans les films ou dans les romans que le cheval que l'on recherche possède un fer auquel il manque un clou ou que le voleur perd miraculeusement le médaillon de la cousine du héros lui avait laissé en gage de son amour quand ils avaient 16 ans et quand ils jouaient à touche-pipi sous les groseilliers. Non, mais on n'est pas dans un film, hein. On n'est pas dans un roman. On est dans un feuilleton. Et puis, c'est la fin du 14e épisode, quoi. Ah, nous sommes en droit de nous poser quelques questions. Est-ce que nos héros rattraperont leur voleur? Pla récupérera-t-il son cher argent? Que fait peur aux pirates quand ils trouvent une truffe? Et écouterez-vous cet épisode avant le prochain? Voilà, c'est ce que nous ne manquons sans doute pas d'apprendre dans le prochain épisode de notre grand feuilleton. Faut faire descendre les ancêtres à la prochaine. Mais où étiez-vous? Où c'est que vous étiez passé? Ça, c'est Petite Pêche à la peau douce qui est en colère quand elle voit Victor et fait fuir les pirates revenir de leur quête infructueuse. Quand elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée seule avec ses gosses dans le camp désert. Et elle entend bien leur faire payer l'inquiétude qui la dévore depuis. Alors Victor explique son réveil, la disparition du sac contenant leur fortune et la disparition des chevaux et la poursuite qu'ils ont entrepris et puis leur échec. « Oh, bah si tu buvais moins, tu aurais pensé à entraver les chevaux hier soir. Quant à l'argent, il est là. Je m'en suis servi comme oreiller. » À ces mots, Victor pousse un soupir de soulagement. Fait fuir les pirates est un peu honteux, parce que c'est lui qui d'habitude entrave les chevaux, et puis que lui aussi, il a un petit peu forcé sur la bouteille la veille au soir, alors il est d'autant plus gêné qu'il n'a pas été capable de les retrouver, ces putains de canassons. C'est donc le nez baissé qu'ils prennent leur petit déjeuner, que Petite Pêche à la peau douce a gardé au chaud. L'embêtant, c'est qu'ils vont devoir faire la route à pied. Mais enfin, c'est un moindre mal. Car Victor n'ose pas penser à l'accueil que leur aurait fait plat s'ils étaient arrivés sans l'argent. Et c'est donc le cœur quand même relativement léger qu'il dévore son petit déjeuner. Pendant toute la journée, Petite Pêche à la peau douce fait à Victor des remarques sur son intempérance. Hein ? S'il buvait moins, elle serait pas chargée comme une mule à s'user la semelle de ses mocassins, hein? Les enfants ne se plaindraient pas d'être fatigués de marcher, et ils seraient déjà au chaud dans une auberge devant un bon repas plutôt que de se traîner comme des malheureux sur cette route qui n'en finit pas. Père Lapiste, lui... Père Lapiste, c'est l'ancien... Ouais, voilà, vous avez compris le procédé. Père Lapiste, lui, n'a pas décroché un mot de la journée. Il ressasse son échec comme un GI mâche son swing-gum avec obstination. Il a hâte de changer encore une fois de nom, parce que celui-ci est vraiment trop humiliant. C'est... Ils sont donc encore assez loin de Marvejols quand la nuit commence à tomber. Ah, il est trop tard pour espérer atteindre la ville avant la fermeture des portes. Il décide donc d'encore une fois de passer la nuit à la Belle Étoile. Ils sont installés autour de leur feu de camp quand un hennissement retentit à quelque distance. Alors aussitôt, Victor et Père Lapiste se saisissent de leurs armes et vont se dissimuler à quelque distance, laissant Petite Pêche à la peau douce et les enfants près du brasier. Et bientôt, ils peuvent entendre les pas de plusieurs chevaux s'approcher. « Ils sont trois !» annonce Père Lapiste. Les cavaliers avancent sans chercher à se dissimuler. Ils se dirigent droit sur le campement. Ce sont trois hommes assez fortement armés mais leur attitude n'est en rien menaçante. Au contraire, arrivés à proximité, ils saluent Petite Pêche à la peau douce et demandent l'autorisation de se joindre à elle. Victor et Père Lapiste, jugeant que la situation ne présente pas de danger, révèlent leur présence et la conversation s'engage. Les cavaliers font partie d'un groupe de volontaires qui patrouillent dans la région. Depuis plusieurs années, une bête terrorise les habitants, attaquant bergers et bergères, laissant sur place leurs cadavres déchiquetés. Jamais on n'a pu la voir. Jamais on n'a pu l'approcher. Mais ce doit être une bête énorme, monstrueuse, si on en croit les blessures qu'elle inflige à ses victimes. Ils ont vu de loin le feu de nos amis et ont voulu savoir qui était assez fou pour rester en pleine nature de nuit. Ça fait bien longtemps que pas un des habitants des environs n'oserait faire une telle chose. Depuis que la bête sévit, tous s'enferment dès la nuit tombée. Et même de jour, personne n'ose s'aventurer seul en pleine nature. Victor et sa petite tribu partagèrent leur repas avec les cavaliers. Ceux-ci se montrèrent curieux des compagnons de Victor. Ils n'avaient jamais vu d'Indien. L'un d'eux en avait bien entendu parler par un de ses cousins, qui en avait lui-même entendu parler par un de ses amis marins, mais s'il fallait croire tout ce qu'on raconte, hein. Enfin bref, le repas se déroula dans la plus franche cordialité, et les cavaliers repus quittèrent nos amis, non sans leur recommander de se méfier de la bête, et de prendre les plus grandes précautions pour ne pas en être les prochaines victimes. Père Lapiste, qui se sent toujours coupable de la perte des chevaux, propose de prendre le premier tour de garde. Hein, il manquerait plus qu'il se fasse en plus étriper par cette mystérieuse bestiole. Ça fait un moment que tout est calme, mis à part les ronflements sonores de Victor. Rien ne vient troubler le silence, et Père Lapiste rêvasse en regardant la lune qui est pleine et jette une clarté métallique sur le paysage environnant. Cela lui rappelle les gardes qu'il faisait là-bas, dans les grandes plaines de l'Ouest, quand il combattait les Pawnees. Il se souvient d'une nuit semblable à celle-ci. Il était jeune alors. Et pour cette raison, il était resté de garde auprès des chevaux pendant que ses compagnons allaient voler ceux de leurs ennemis. Ils étaient rentrés en triomphateurs avec un butin de plus de 30 chevaux. Un vrai succès. Ils avaient fait une fête d'enfer. Un bien bon souvenir. Et il est en train de sourire à la lune quand son attention est attirée par un bruit inhabituel. Pas de doute. Quelqu'un ou quelque chose est là, sur sa gauche. Des feuilles ont bruissé comme sous un pas précautionneux. Retrouvant ses instincts de guerrier, Père Lapiste encoche une flèche sur son arc et silencieusement se déplace de façon à ne plus être dans la clarté. Accroupi derrière une souche, il attend, tous les sens en éveil, prêt à tout. Ah, elles sont longues les secondes dans ces conditions, quand on guette le moindre frôlement, quand on retient sa respiration de peur qu'elle ne vous trahisse, quand à force d'attention, votre œil voit des ombres bouger même là où ne se passe rien. Voilà, c'est grosso modo, c'est comme dans un feuilleton quand l'auteur ne sait plus quoi raconter et qu'il délaie en attendant d'avoir un brin d'inspiration et en attendant cette phrase miracle qui relance l'action, vous voyez. Alors, comme nous, il aimerait bien qu'il se passe quelque chose, Père Lapiste. C'est qu'il en a marre d'attendre. Il a des fourmis dans les jambes, c'est pénible. Tel Lagardère, le héros de Cap et d'Épée, hein, pas le capitaliste monopoliste que vous avez bien connu. Non. Donc, comme Lagardère, il se dit, si tu ne viens pas à Père Lapiste ira à toi. Et en se coulant à travers les différents obstacles, il rampe vers l'ennemi présumé. Et là, évidemment, c'est la fin du 15e épisode. Et cette pensée, si tu ne viens pas à Père Lapiste ira à toi, fut la dernière qui lui effleura l'esprit avant de prendre un grand coup de crosse de fusil derrière les oreilles. Ce qui, évidemment, le mit hors de combat de rechef. Trois silhouettes sortent alors de l'ombre et viennent cerner le campement. Elles se jettent simultanément sur Victor, qui ronfle toujours aussi bruyamment, sur Petite Pêche à la peau douce, et sur les enfants qui étaient tous profondément plongés dans le sommeil. Et en deux temps, trois mouvements, nos amis sont immobilisés, ficelés, bâillonnés. Ah, les agresseurs doivent avoir une grande pratique de ce genre d'attaque, car l'action n'a duré que quelques secondes. Et bien sûr, comme vous vous en doutez, finaux que vous êtes, il s'agit bien évidemment des individus qui ont partagé le repas de nos héros au cours de l'épisode précédent. Un bienfait bien mal récompensé, aurait dit Plat. Et les trois gredins fouillent alors consciencieusement les bagages de nos amis. Des cris de joie accueillent la découverte du sac contenant l'argent de la transaction que vous savez. Ah, ils se doutaient bien qu'ils allaient faire une bonne affaire en revenant dépouiller ces voyageurs imprudents. Oh, mais jamais ils auraient pensé qu'elle fût aussi juteuse. Oh, les voilà donc qui se mettent à festoyer pour fêter ça. Et il y a toujours de quoi festoyer. Parce que Petite Pêche à la peau douce, en bonne ménagère, veillait toujours à ce que les provisions soient toujours assez abondantes pour faire face à toute situation. Et comme d'autre part, Victor ne se laissait jamais prendre de cours au niveau de la boisson, bah il trouve largement ce qu'il faut pour fêter leur trouvaille. Et c'est à grands coups de sable qu'il tranche un magnifique jambon et se découpe de larges tranches d'un pain frais. Chacun se saisit d'une bouteille d'un excellent vin dans les réserves de Victor et la décalote de même d'un coup de sabre. Entre deux bouchées, entre deux goulets, les malfrats passent en revue tout ce qu'ils vont bien pouvoir faire avec tout cet argent. « Oh, bah je vais ouvrir une auberge, » dit l'un. « Oh, bah moi, un boxon, » dit l'autre. « Oh, cette caluque, travailler c'est pour les caves, moi je veux le dépenser, mon pognon, » qui veut aussi faire le troisième. Et puis ils boivent un coup pour sceller leur désaccord. À la troisième bouteille, telle Perrette qui change un litre de lait en veau, vache ou cochon, ou comme un boursicoteur qui achète une action France Télécom et qui se voit déjà transformé en Lagardère, le premier se retrouve propriétaire de la Tour d'Argent, le second est patron du Chabanais et le troisième éternellement riche, quoi qu'il dépense. Alors ils décident que ça se fête et ils ouvrent de rechef chacun une quatrième bouteille. Ah bah vous remarquerez, il s'embarquait pas sans provision, hein, le Victor. Non, vraiment pas. Enfin, on a beau être résistant, à ce régime, on est vite ivre, hein, quand même. Vint donc le moment des chansons braillées à tue-tête, des rires intempestifs et du dégueulis. Ah, ils tiennent plus debout, hein, les fripouilles. Ils s'endorment avant de finir leur cinquième bouteille. Victor, qui a pourtant le sommeil lourd, finit par s'éveiller et, pas plus bête qu'un autre, se rend compte assez facilement de la situation. dire qu'il regrette de s'être encombré de son frère de sang pour le voyage est un très doux euphémisme.
Oh, il est vraiment bon à rien, ce connard. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'aller le repêcher?
Il rumine comme ça, obsessionnellement. Ça fait pas avancer le schmilblick, mais ça le défoule. Hein. Pour le reste, il voit vraiment pas ce qu'il pourrait faire, ceci sonné comme il est. Petite pêche à la peau douce, elle, fataliste, comme toutes les indiennes, s'est rendormie. Quant aux enfants, privilège de l'âge, ils ne se sont même pas réveillés. Et perd la piste, me direz-vous. Hein, perd la piste, qu'est-ce qui devient? Eh bien, perd la piste a derrière le crâne une bosse qui ressemble à un gros œuf violet. Et pour l'instant, rien ne montre qu'il puisse reprendre conscience dans les minutes qui suivent. Il est toujours là où il a été surpris par le malfaisant qui lui a asséné ce formidable coup de crosse. Un vrai miracle d'ailleurs que sa tête n'ait pas éclaté sous le choc comme une vulgaire cacahuète entre les doigts d'un champion de lutte gréco-romaine. Et quand enfin il reprend connaissance, la première chose qu'il fait est de porter la main à cette bizarre excroissance qui lui décore le crâne.
« 1 000 milliards de tonnerres de Brest, il m'a pas raté le salaud »
pense-t-il en découvrant les dégâts. Ah oui, alors cette expression, c'est pas une expression indienne, il avait appris ça, cette expression, d'un dénommé Haddock qui était Bosco sur le navire qui leur a fait traverser l'Atlantique. Et il avait sympathisé avec Haddock lorsqu'il se nommait Fait du Vent. Hein? Non, rappelez-vous le 12e épisode. Hein? Et depuis, bah, il emploie cette expression aussitôt qu'il en a l'occasion. Ça le change. En tout cas, il est interrompu dans ses pensées laborieuses par la voix de l'un des brigands.
Hé les gars, réveillez-vous! La fête, elle est pas finie. Il y a encore à s'amuser assis. Hein? Avant de les estourbir. Hein? Ah, il n'y a pas de temps à perdre. Bientôt, il va faire jour. Il faut qu'on soit rentré à temps si on veut pas avoir d'ennui.
Et tout en discutant de la sorte, le crapuleux individu secoue ses compagnons pour les tirer du sommeil alcoolique dans lequel ils sont plongés.
Allez, on se secoue! Il y a une belle petite indienne qui ne demande qu'à faire connaissance avec nous. Elle est mignonne comme tout, la petite sauvage. Allez, allez pas me dire que ça vous tente pas. Moi, je vais me la faire. Et quand il y en a pour un, eh ben il y en a pour trois. Hein? Il n'y a pas à se priver. Et puis après, faudra les expédier de façon à ce qu'on croit que c'est la bête qui les a zigouillés. Hein? Oh, mais ça, on a l'habitude, hein? Pas vrai?
Et l'affreux personnage rit comme seuls savent le faire les plus épouvantables criminels dans les films d'horreur de série B que l'on peut voir dans les cinémas des quartiers malfamés de la capitale. Les deux autres malfaisants finissent par émerger du pays des songes et pour se remettre en état proposent de vider une bouteille avant de violer la compagne de Victor. Celui-ci se débat dans ses liens, mais attaché si solidement que tous ces efforts ne servent qu'à faire rire les sordides bandits.
Ouais, t'inquiète pas, mon pote. On va pas lui faire de mal à ta grognasse. Au contraire, j'ai là de quoi lui donner bien du plaisir.
C'est tout au moins ce que dit l'affreux qui le nargue en se tendant le bas-ventre à deux mains. Alors là, c'est la fin du 16e épisode. Mais pour le 17e épisode, est-ce que nous allons tomber dans la plus basse pornographie et assister en direct live au viol de petite pêche à la peau douce? Hein? Perd la piste, va-t-il pouvoir intervenir? Hein? De quoi sera fait demain? Est-ce que Sarkozy sera président? Non, C'est à toutes ces horreurs que nous risquons d'assister dans le prochain épisode de notre grand feuilleton. T'as vu l'ancêtre? Moi, je descends à la prochaine. Ouais. Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Il va nous falloir attendre la semaine prochaine pour avoir la suite de notre grand feuilleton « Descend tous de nos ancêtres ». C'est vrai que ça s'est arrêté à un moment particulièrement tendu, on va dire. Non, vous inquiétez pas, la question sur Sarkozy, non, il sera pas président, je veux répondre tout de suite. Enfin, toujours est-il que nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite de « On descend tous de nos ancêtres ». En attendant, je dis un grand merci à Nico qui toutouille les boutons derrière la vitre. Et à vous, je dis comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.